Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, ce soir, les bombardements de l'armée turque qui s'intensifient dans le nord de la Syrie contre des cibles kurdes. Depuis mercredi, ils ont poussé au moins 100 000 civils à fuir de chez eux, selon les Nations Unies.
À suivre également le Nobel de la paix pour le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, salué pour avoir réconcilié son pays avec l'Érythrée.
Et puis du football dans l'actualité également avec Islande-France. Match de qualification pour l'Euro 2020 à Reykjavik. Les deux équipes en sont à 0-0 pour l'instant.
Le journal en français facile.
Et ce soir, le président Erdogan affirme que la Turquie ne stoppera pas l'opération qu'elle mène en Syrie. Un peu plus tôt, les États-Unis avaient mis en garde Ankara contre de graves conséquences si elle n'interrompait pas son assaut, c'est-à-dire son attaque.
Oui, la situation dans le nord de la Syrie, deux jours après le début de l'offensive turque contre des positions kurdes, offensive qui n'est pas sans conséquences sur les populations civiles. Les Nations Unies parlent de 100 000 déplacés en raison des combats du côté turc de la frontière. On retrouve notre envoyé spécial, Oriane Verdier.
Les habitants fuient progressivement. Ils ne savent pas combien de temps cette situation va durer, ni quelle est la capacité réelle de résistance et de réponse des forces kurdes syriennes. Dans certaines villes, des opérations d'évacuation ont été menées par les autorités elles-mêmes. Plusieurs tirs de mortier ont touché des bâtiments civils. Dans la ville d'Akçakale, où nous nous trouvons, toute la journée, nous avons entendu des propos à la gloire du président Erdogan. Un vieil homme nous confiait tout de même qu'il aurait préféré que les autorités préparent mieux cette opération en prenant compte des civils, car en réalité tout le monde est dans l'attente et dans l'ignorance. Alors que les rues sont de plus en plus désertes, les détonations de tirs d'artillerie turcs ont rythmé la journée. Ils visent la ville d'en face, Tal Abyad, pendant que les milices soutenues au sol par Ankara encerclent petit à petit la zone urbaine syrienne. Ainsi, à Akçakale, depuis un jardin public aux buissons bien ordonnés, on peut observer une épaisse fumée menaçante s'élever vers le ciel. Un contraste étrange entre le calme côté turc et l'horreur que l'on ne peut qu'imaginer à quelques kilomètres de nous. Oriane Verdier, Akçakale, RFI.
Et parmi les réactions après cette opération, après ces opérations donc de la Turquie dans le nord de la Syrie, on notera celle de Moscou, la Russie qui, si elle n'a pas condamné l'offensive militaire de Recep Tayyip Erdogan, s'inquiète des conséquences sur la région, notamment de voir se disperser dans la nature les combattants du groupe État islamique détenu par les Kurdes. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi Vladimir Poutine, le président russe.
Dans le nord de la Syrie se trouvent des zones où sont concentrés des combattants de l'organisation État islamique. Jusqu'à ce jour, ce sont les Kurdes qui assuraient leur surveillance. Et voilà que l'armée turque intervient et que les Kurdes abandonnent les camps où ces combattants sont retenus. Or, ils peuvent se disperser facilement. Et je ne suis pas sûr que l'armée turque puisse prendre ces zones rapidement sous contrôle. Selon le service de renseignement de notre état-major, on y trouve des milliers de combattants, ce qui constitue pour nous une vraie menace. Où vont-ils se diriger? Vers la Turquie? Vers d'autres territoires? Iront-ils au fin fond de la Syrie pour investir des territoires qui ne sont aujourd'hui contrôlés par personne? Ou alors passeront-ils par l'Irak ou encore d'autres pays de la région? Nous devons être conscients de la menace qu'ils représentent et mobiliser les ressources de nos services spéciaux afin de contrer cette menace.
Le président russe Vladimir Poutine.
Lui se dit honoré et ravi. Lui, c'est Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix.
Et le premier ministre éthiopien qui se voit distingué pour son travail de réconciliation avec l'Érythrée, travail dont il a été l'artisan depuis son arrivée au pouvoir à Addis-Abeba, il y a seulement 18 mois. Son portrait par Magali Lagrange.
Abiy Ahmed arrive à la tête du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique en avril 2018. En quelques mois, il se fait un nom sur la scène internationale. Il signe la réconciliation avec son voisin, l'Érythrée, sur un différend frontalier vieux de 2 décennies. Une réconciliation marquée par la réouverture d'ambassades, de postes frontières et la reprise de liaisons aériennes entre les deux pays. Toutefois, les spécialistes soulignent que peu de choses ont changé concrètement sur le terrain depuis. L'ouverture des frontières n'est qu'intermittente et ne profite qu'aux commerçants. La frontière n'a pas été démarquée. En clair, le chemin à parcourir est encore long pour vraiment régler la situation. Abiy Ahmed, issu de l'ethnie Oromo, a également entrepris de nombreuses réformes à l'intérieur de son pays. Le Premier ministre a fait libérer des milliers de prisonniers politiques. Ces réformes lui valent aussi des rancœurs de la part de la vieille garde du régime et il faut signaler que le pays fait actuellement face à une flambée de violences intercommunautaires alors que des élections législatives sont prévues en mai prochain.
Magali Lagrange.
L'actualité internationale, c'est aussi cet accord entre Londres et Bruxelles pour lancer des négociations intensives à 20 jours de la date butoir du Brexit.
Oui, les 27 États membres ont donné leur feu vert à leur négociateur Michel Barnier, qui avait rencontré dans la matinée son homologue britannique Stephen Barclay. L'entretien est qualifié de constructif par le Français, qui demande toutefois de la patience. Le Brexit, dit-il, c'est comme gravir une montagne. Il faut de la vigilance, de la détermination et de la patience.
L'Angleterre, où un homme d'une quarantaine d'années a été arrêté après une attaque à l'arme blanche à Manchester.
Dans le nord du pays, il y a 2 ans, la ville avait été frappée par un attentat à la bombe qui avait fait 22 morts à la sortie d'un concert. Ce vendredi, un homme seul, armé d'un couteau, a blessé plusieurs personnes dans le centre commercial d'Arndale. Ses motivations sont pour l'heure inconnues.
Et puis en France, une semaine après l'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris, 2 policiers désarmés, et cela en raison de soupçons de radicalisation.
2 fonctionnaires en poste en Île-de-France. Une demande de suspension a été faite pour l'un d'entre eux. Cette décision intervient après le meurtre de 3 policiers et d'un agent administratif à l'intérieur de la préfecture de police par Michael Harpon, un employé soupçonné de radicalisation islamiste, Zéphirin.
Et puis, cette information qui vient de nous parvenir, hein, Loïc, l'arrestation à Glasgow de Xavier Dupont de Ligonnès.
Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants en 2011 à Nantes. Il était activement recherché. Depuis, il a été arrêté à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Il avait été repéré un peu plus tôt avant d'embarquer à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle.
Le journal en français facile.
Et direction l'Islande, hein, pour du football. Islande-France, c'est ce soir à Reykjavik.
Et c'est en ce moment même match comptant pour les qualifications pour l'Euro 2020. On retrouve notre envoyé spécial Antoine Grenier dans ce stade au nom imprononçable, avouons-le, pour qui n'est pas islandais. La deuxième mi-temps a débuté depuis une grosse dizaine de minutes, Antoine.
Et vous arrivez au meilleur moment possible, Loïc, en tout cas pour l'équipe de France, les Bleus qui bénéficient d'un pénalty pour une faute de Skúlason sur Antoine Griezmann. L'attaquant du FC Barcelone s'écroule dans la surface. L'arbitre de la rencontre n'hésite pas, malgré évidemment les protestations des 9000 Islandais présents dans ce stade, au nom, vous le disiez, tout à fait imprononçable. C'est du coup Olivier Giroud qui va se charger de frapper le pénalty, l'attaquant de Chelsea, qui pourrait inscrire là son 37e but avec l'équipe de France. On espère évidemment avoir le temps de suivre cette action. Il s'élance, Olivier Giroud, pied gauche, c'est frappé, c'est dedans. Et le but d'Olivier Giroud qui débloque la situation pour l'équipe de France ici à Reykjavik. Les Bleus avaient du mal jusqu'ici et ils ouvrent la marque à la 66e minute sur ce pénalty obtenu par Antoine Griezmann. Les Bleus qui étaient revenus avec de très bonnes intentions en début de seconde période, en tout cas de bien meilleur par rapport à ce qu'on avait vu en première. Les Bleus ouvrent donc la marque ici à Reykjavik pour cette 7e journée des éliminatoire de l'Euro. 1-0 pour les Bleus face à l'Islande.
Antoine Grenier en direct donc du stade de Laugardalsvelle à Reykjavik en Islande. Et puis un résultat de rugby pour refermer ce journal, la victoire de l'Australie sur la Géorgie 27-8. Les deux équipes jouaient leur dernier match de poule en Coupe du Monde au Japon. À noter que les 2 rencontres qui devaient se tenir dans la région de Tokyo demain samedi sont annulées pour cause de typhon. En l'occurrence, France-Angleterre Angleterre et Nouvelle-Zélande, Italie. Il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi, merci d'être fidèle à la Radio du Monde.